Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons examiné les Écritures qui confirment que personne n'est monté au ciel. Le Christ a affirmé « Personne n'est monté au ciel ». Ceux qui s'obstinent à croire que leur âme ira au ciel rejettent peut-être sans s'en rendre compte la parole de Dieu. Certains prétendent que, lorsque le Christ a fait cette déclaration, il n'était pas encore ressuscité et que, depuis lors, la situation a changé. Après la mort et la résurrection du Christ, l'apôtre Pierre déclara « David n'est point monté au ciel ». Pierre fit cette déclaration le jour de la Pentecôte, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Connaissez-vous ces affirmations de Jésus et de Pierre? David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, et qui avait trouvé grâce devant le Tout-Puissant, n'est cependant pas un cas isolé. La Bible montre que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni aucun des grands prophètes ne sont montés au ciel. D'ailleurs, il n'y a aucune âme de défunt dans le ciel. Le prophète Daniel décrit le temps de la fin. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Si les morts sont vivants d'une manière ou d'une autre, pourquoi devraient-ils alors se réveiller? Pourquoi devraient-ils se réveiller pour la vie éternelle si leur âme est déjà près du Seigneur? Les passages des Écritures cités la semaine dernière et ceux que je citerai aujourd'hui montre que le ciel n'est pas la demeure des justes défunts, ni la récompense promise à ceux qui seront sauvés. Ceux qui persistent à croire le contraire citeront les paroles du Christ, disant aux malfaiteurs « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais ils oublient que 3 jours après sa mort, Jésus n'était toujours pas monté vers son Père, comme il l'affirme lui-même à Marie de Magdala. Le Christ est mort, et il est resté totalement inconscient pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'au moment de sa résurrection. C'est ce qu'il a déclaré à l'apôtre Jean. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Certains citeront encore les paroles du Christ aux disciples, déclarant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, et qu'après s'en être allé, « il leur préparera une place. » D'autres citent les paroles de Paul qui dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Mais Paul ne dit pas où et quand il sera avec le Seigneur. Par contre, dans d'autres passages, le même apôtre explique clairement que c'est au moment de la résurrection que lui et les autres justes iront à la rencontre du Seigneur, et ce n'est qu'alors qu'ils seront toujours avec lui. La résurrection aura lieu parce que les morts sont toujours morts et qu'ils se trouvent dans leur tombe et non au ciel. Si les âmes de millions de gens sont en ce moment dans le ciel, près du Seigneur, pourquoi devrait-il y avoir une résurrection des morts? Il y a aussi ceux qui citent la transfiguration, l'enlèvement d'Enoch et d'Élie, sans oublier la parabole du mauvais riche et Lazare. Nous avons une étude sur ces sujets. Elle est mise gratuitement à votre disposition si vous la souhaitez. Mais diront certains, n'y a-t-il pas le témoignage de toutes ces apparitions de saints dans diverses parties du monde? Si, bien sûr, ces apparitions existent, mais s'agit-il d'apparitions de saints qui seraient déjà au ciel près du Seigneur? N'oublions pas que Satan est le dieu de ce siècle, de cette présente époque. Il a aveuglé l'intelligence des hommes. Il continue à séduire toute la terre et il continuera à faire des prodiges jusqu'au temps de la fin. Remarquez que ces apparitions de saints sont en contradiction avec les paroles du Christ qui a déclaré « L'Écriture ne peut être anéantie » et c'est le Christ qui a inspiré l'apôtre Jean à écrire « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel ». Ce fut rédigé plus de 60 ans après la mort de notre Sauveur, et environ 25 ans après la mort de Marie, la mère de Jésus. Puisque c'est à Jean que Jésus a confié sa mère, ne pensez-vous pas qu'il sait de quoi il parle? Le monde est dans la confusion parce qu'il se laisse influencer par toutes sortes d'idées au lieu d'admettre que la source même de la vérité est la Bible. Paul écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». L'apôtre Pierre ajoute « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu ». Si nous voulons connaître la vérité, nous devons nous débarrasser de nos idées et apprendre à faire confiance aux Écritures. Nous devons avoir foi en ce qu'elles déclarent, rejeter tout ce qui est en contradiction avec elles, éliminer toute supposition humaine et prouver nos croyances, prouver leur véracité en examinant tous les passages qui traitent du sujet. Les Juifs de Bérée, qui sont cités en exemple, reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Remarquez qu'ils ne fermaient pas leur esprit à tout ce qui était contraire à leur enseignement traditionnel. Ils écoutaient, ensuite ils examinaient les Écritures. Le Christ a dit « Cherchez et vous trouverez ». Cherchez donc avec un esprit ouvert, sans parti pris ni arrière-pensée, et la vérité vous affranchira. Jésus a déclaré « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui la met en pratique, est passé de la mort, de la malédiction de la loi qui condamne les pécheurs à la mort éternelle. Celui-là est passé à la vie, il a reçu un acompte de vie éternelle, cette vie éternelle qu'il recevra lors de la résurrection, et il échappera au jugement, étant maintenant justifié par le sang du Christ, s'il se soumet à Dieu et à ses lois. » Le Christ poursuit. « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Depuis le début de son ministère, bien des personnes qui ont eu l'occasion d'entendre, à l'époque, l'enseignement du Christ sont mortes. Mais tous les morts auront l'occasion d'entendre la voix du Fils de Dieu. Il leur sera donné de connaître la vérité après leur résurrection. C'est alors qu'ils pourront vivre en conformité avec la parole de Dieu. Ceux qui l'auront entendu et mis en pratique vivront, ils recevront la vie éternelle. Jésus ajoute « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Si ceux qui auront fait le bien sont déjà au ciel près du Seigneur, pourquoi devraient-ils attendre ce moment-là pour entendre sa voix ? Et pourquoi devraient-ils ressusciter pour la vie si leur âme, leur vie, est déjà au ciel ? Non, si vous voulez faire un examen impartial des Écritures, vous constaterez que les morts sont toujours morts et qu'aucun d'eux ne sont près du Seigneur actuellement. Jésus a ajouté « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » L'homme n'a donc pas la vie inhérente en lui, il ne possède pas un élément immortel qui monterait au ciel près du Seigneur. Les enseignements chrétiens traditionnels ne sont-ils pas en contradiction avec les Écritures? Si les chrétiens vont directement au ciel après leur mort, pourquoi s'encombrer d'une résurrection? Il faut être logique et laisser le soin aux Écritures de nous révéler la vérité qui émane de Dieu. C'est au retour du Christ que sera établi le royaume des cieux, appelé ainsi, parce que c'est de là qu'il sera venu. Il faut distinguer le royaume des cieux du royaume du monde. Le livre de l'Apocalypse déclare « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » le royaume du monde, dirigé par Satan et ses démons, sera remplacé par le royaume céleste de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Christ a déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde ». En effet, son royaume viendra des cieux et remplacera le royaume du monde. Lorsque Jésus fut tenté par Satan, que s'est-il passé? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores ». Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Jésus savait que Satan est le prince de ce monde, qu'il l'est encore aujourd'hui, mais qu'il en sera dépossédé lorsque sera établi le royaume de Dieu. Il ne le contredit pas, il se contente de résister à la tentation. Le prophète Ésaïe décrit les événements qui suivront le retour du Christ. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le gouvernement, le royaume de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes, des royaumes païens, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons dans la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est sur la terre que le Christ règnera, et tous ses saints, dont aucun n'est près du Seigneur aujourd'hui, régneront avec lui. Personne ne va au ciel. Les morts sont toujours inconscients dans l'attente d'une résurrection. En fait, si vous examinez les Écritures, vous constaterez que c'est Dieu le Père lui-même qui viendra sur terre. L'apôtre Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Nous n'irons pas au ciel, c'est Dieu qui viendra sur cette terre. Notre planète est destinée à devenir le centre du gouvernement divin et de toutes les activités de l'univers, qui sera alors mis à la disposition de tous ceux et de toutes celles qui auront fait la volonté de Dieu en observant ses lois et ses commandements. Voilà ce qui attend le véritable chrétien.